Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Je suis très contente et je crois que Carole aussi, parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet extrêmement tabou, ce qu'on appelle sûrement mal la femme fontaine. Et je me souviens, Carole, on en avait discuté il y a un an. Et c'est quand je suis venue participer à une émission sur Radio Alig pour parler de notre podcast que j'ai rencontré Soazic Thiébaut. Bienvenue Soazic.
Merci.
Comme je disais, on s'est rencontrés et tu m'as parlé de ce sujet-là et tu m'as dit que tu avais fait un mémoire en fait sur le mythe de la femme fontaine. Alors déjà, pour commencer, pourquoi avoir choisi d'étudier ce sujet-là?
Je sais que c'est assez curieux. J'ai eu la chance d'être dans une école qui était assez ouverte à ce genre de propositions, donc c'est aussi pour ça que je suis allée sur ce terrain. Tout simplement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé au cours de ma sexualité, d'être femme fontaine. Et j'ai ressenti comme une sorte de... un peu de honte, de culpabilisation. Et je me suis dit, c'est pas normal quand même de ressentir ça, alors que c'est a priori un phénomène naturel. Donc j'ai poussé mes recherches, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Et là, j'ai été face à un mur, parce qu'en fait, il y avait très peu d'informations. Et donc j'ai décidé de consacrer mon sujet de mémoire de Master 2 au mythe de la femme fontaine, aujourd'hui, pour comprendre un peu...
C'est hyper intéressant d'avoir, enfin, comme tu dis... Au début, tu t'es sentie dans la honte ou dans la culpabilisation et du coup, tu as quand même renversé, c'est hyper important, renverser la chose pour aussi peut-être te réapproprier ta sexualité en fait en étudiant cela.
Complètement, ouais. Et puis je me suis dit, en fait, c'est en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui était répandu mais toujours tabou. Et comprendre encore pourquoi est-ce que c'est tabou. Alors, il y a plein de sujets féminins qui sont tabous aujourd'hui autour de la sexualité, mais pourquoi celui-ci en particulier? Et donc, c'était aussi l'idée de ce projet.
Et alors pour commencer, parce qu'il faut bien qu'on commence, parce que comme tu dis, ce sujet, il est vraiment,
ouais.
On est je crois sur le summum du tabou, on en parle très peu, ou on va en parler à voix basse, et seulement à quelques personnes et encore. Alors Carole, dis-nous tout, on en a parlé tout à l'heure avant d'enregistrer, qu'est-ce que c'est être femme fontaine? Déjà je sais même pas si c'est une bonne expression, mais qu'est-ce que c'est en fait?
Bah, comme dit Soazic, hein, le mythe de la femme fontaine, qu'est-ce que c'est? J'ai pas beaucoup de réponses parce que ni les urologues, ni les gynécologues, ni les médecins ne sont d'accord sur le sujet.
Ok.
Donc voilà, moi je suis comme eux, je sais pas beaucoup plus qu'eux. On se pose la question, c'est est-ce que c'est une suractivation du point G? Est-ce que c'est une activation des glandes de Sken? Ou est-ce que c'est une prostate féminine? Déjà ça, on n'a pas vraiment la réponse, on n'est pas tous d'accord. On sait d'où vient le liquide, c'est déjà une bonne chose. On sait que le liquide n'est pas de l'urine, du côté culpabilisant et honte, parce que les premières fois, on pense que oh, j'ai fait pipi. On connaît le contenu aussi, ça c'est aussi important de se dire que c'est 100 ml à peu près, donc ça fait la moitié d'un verre ou un verre en fonction de la taille du verre. Et puis, la grande question, et peut-être qu'on y répondra après avoir entendu ce que Soazic a fait dans ses recherches, c'est est-ce qu'on est femme fontaine ou est-ce qu'on le devient? Moi, j'ai un avis à ce sujet, mais je vous le dirai plus tard.
Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il doit aussi y avoir un certain nombre de personnes qui ne savent tout simplement pas qu'elles sont femmes fontaines, qui ne le verbalisent pas, qui se disent « Tiens, c'est vrai que je ressens quelque chose, mais je préfère pas en parler parce que j'arrive pas à comprendre ce que c'est, parce que de toute façon, je ne connais pas mon corps et mon appareil génital. » Mais donc là, si on est réunis, c'est vraiment pour essayer de déceler un peu ce mythe, de le comprendre. Donc toi, Soazic, qui a étudié pendant un an ce sujet, enfin, tu as dû vraiment en voir de toutes les couleurs, j'imagine, ouais. Et puis ça a dû être assez intéressant et prenant. Pour commencer, d'où il vient ce mythe? Alors, il devait peut-être y avoir plusieurs réponses, mais comment c'est venu?
Bah, en fait, ce mythe, il a traversé les siècles parce que dès l'Antiquité, on en parlait, en fait. On en parlait en Grèce antique. Il y a eu un mythe autour de Castalie, qui était une déesse qui a été métamorphosée par Apollon parce qu'elle refusait ses avances. Et donc, il l'a transformée en fontaine. Et ensuite, la légende raconte que les hommes qui venaient s'abreuver à cette fontaine avaient une sorte d'exaltation poétique qui émanait d'eux. Donc okay. Voilà.
Et donc ça viendrait
c'est
de
joli,
là.
Hein.
Ouais, mais c'est. Je m'attendais pas du tout à une explication comme ça. Et c'est de là d'où viendrait le mot femme fontaine. Du coup,
non, pas du tout. Bah alors. C'est lié, forcément, mais le terme femme fontaine, il naît en 84, si mes souvenirs sont bons, par Frédéric Gruyé, qui est psychothérapeute, et qui écrit dans Ce paradis trop violent, enfin, qui aborde la première fois le terme de femme fontaine. Et c'est de là que, dans le langage français, on emploie ce terme. Après, on associe forcément l'éjaculation féminine à une fontaine, parce que c'est un jet qui peut être expulsé très violemment. Mais le terme femme fontaine naît dans les années 80 en France, quoi. Donc,
je dirais pas violemment, c'est que c'est un jet, quoi, et que le jet qui part est surprenant. Mais il y a pas de quand je dis violemment, c'est que ça fait pas mal, il y a pas de violence.
Oui,
ça
oui,
fait...
oui,
bien sûr. C'est juste l'expulsion qui est. Et puis dans tout ce qu'on peut voir dans les images de films pornographiques, on s'est toujours représenté comme un jet d'eau. Voilà, faut. Mais c'est pas forcément tout le temps comme ça, et c'est pas forcément que ça, quoi.
Oui, et puis l'éjaculat suivant les femmes est plus ou moins. Il y a plus ou moins de liquide qui oui. sort, en fait. C'est pas oui. le même. Ça peut aller de quelques gouttes à presque remplir un verre d'eau. C'est fluctuant, ça change.
Puis et alors... la couleur, c'est plutôt transparent, mais en fonction des femmes aussi, ça peut être un peu plus liquide ou un tout petit peu plus épais, quoi.
Et du coup, cette éjaculation-là, féminine, qu'on appelle fontaine, elle se manifeste au moment de l'orgasme ou elle se manifeste autrement ?
Non, pas nécessairement. Et ça, c'est aussi une notion qui me semble importante à aborder, qui est la dissociation de l'orgasme et de l'éjaculation, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, d'ailleurs. Et non, ça n'a rien à voir. Ça peut être au milieu de l'acte sexuel, avant l'orgasme féminin, après l'orgasme féminin, c'est vraiment variable.
Oui, parce que ça nous permet d'aborder un autre tabou qui est qu'on parle toujours d'orgasme masculin avec l'éjaculation, mais en fait, un homme n'a pas forcément un orgasme chaque éjaculation, et comme il peut avoir un orgasme sans éjaculation.
Oui, puis là, dans la femme fontaine, il y a. L'orgasme n'est pas. C'est pas la même. Ne ressemble pas aux autres orgasmes. Il n'y a pas forcément d'orgasme quand il y a cette éjaculation, quoi. Donc, ou c'est un autre type d'orgasme quand les femmes ont l'habitude et ressentent le corps. Et effectivement, on peut avoir une expulsion sans avoir d'orgasme.
Et là, c'est bien parce qu'on sûrement certaines de nos auditeurs, de nos auditrices, peut-être se reconnaissent ou en tout cas apprennent. Réellement ce que c'est. Moi, je me demande, entre l'Antiquité et 1984, il se passe quoi, en fait, entre-temps, là-dessus ?
Mais il se passe tellement de choses, et c'est ça qui est assez dingue. C'est qu'on a beaucoup cultivé ce mythe, et pendant un long moment, on a pensé qu'en fait, l'éjaculat féminin permettait la fécondation de la femme. Donc, pour faire un enfant, il fallait l'éjaculat féminin et l'éjaculat masculin. Et donc, même l'Église catholique a incité les femmes à éjaculer pendant l'acte sexuel. Oui, oui.
Non, mais c'est... Waouh. Et comment et... Parce que c'est vrai que... Enfin, c'est impressionnant parce que c'est tellement tabou, la sexualité dans l'Église. Enfin, sexualité égale reproduction. Donc, en même temps, ça coïncide bien avec ce que tu dis. Mais comment ils ont fait pour inciter les femmes à...
Ça, je sais pas. C'est une bonne question.
C'est fou, quoi.
Parce que la représentation était de dire qu'il fallait un peu le spermatozoïde et ce liquide pour qu'on ait plus facilement des enfants.
Ah, ouais. Non, mais ouais. C'est...
Donc, après, on était... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas non plus de connaissance que comment ça se passait dans les couples. Parce que c'est la question que je posais. On est ou on le devient. Voilà, il y aurait des femmes qui vont avoir toute leur vie une sexualité sans connaître le fait d'être femme fontaine ou qu'une fois dans leur vie, enfin voilà. Donc là, c'est effectivement, c'est intéressant comment ils procédaient,
ouais, pour faire naître ça. Donc on a l'Église, ok, donc ouais. on a ce moment là qu'est-ce qu'on a d'autre alors durant cette circulation du mythe?
Du coup, jusqu'à peu près au milieu du 17e, on pense qu'on a besoin d'une double semence pour la fécondation, donc on incite les femmes à éjaculer. Et à partir du 19e, là, en fait, on se rend compte, les scientifiques se rendent compte qu'il n'y a aucune faculté reproductrice dans le liquide suite à l'éjaculation féminine. Et donc là, en fait, il y a une sorte de répression totale et on cloisonne l'éjaculation féminine, on n'en parle plus du tout. Et au contraire, c'est là que ça devient tabou, en fait. Et de là, notamment avec la psychothérapie, on invisibilise totalement l'appareil génital féminin. Et en fait, c'est là la décadence, selon moi. Et c'est là l'invisibilisation du corps de la femme, du clitoris et de l'organe génital féminin.
Oui, parce que ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, nous, on l'a lu, ton mémoire. Et en fait, ce que tu montres, c'est que en fait, cette méconnaissance-là, en fait, elle ressemble beaucoup aussi à la méconnaissance du clitoris et du fait qu'aujourd'hui, ça y est, on commence à reparler du clitoris et à l'afficher, et ça devient même quelque chose d'empouvoirant et tout cela. Mais en fait, il y a encore 10 ans, quand on allait en cours, on n'en parlait pas du tout. Enfin, c'est fou qu'en fait, finalement, chaque partie du corps, enfin, de l'appareil génital a été vraiment emprisonnée, quoi.
Ah mais complètement. Et c'est vraiment... En fait, ce qui est surprenant aussi, je trouve, c'est qu'au 19e siècle, donc on invisibilise le clitoris, le corps de la femme. Et en 1994, il y a une urologue australienne qui s'appelle Hélène O'Connell qui, là, publie une série d'articles qui montrent que le clitoris, c'est un organe génital qui peut mesurer 10 à 15 cm, qui a 7 à 8 000 terminaisons nerveuses, donc c'est énorme. Et là, on voit beaucoup de similarités avec le sexe masculin, en fait. Donc en 1994, cette urologue présente un schéma complet du clitoris. Mais en 2017, en France, plus de 20 ans après, c'est le seul moment où un manuel scolaire de SVT propose une anatomie complète du clitoris. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est scandalisant qu'on n'en parle pas depuis plus longtemps.
Parce qu'on était sur toute la reproduction. Ce qu'on s'est intéressé, c'est la reproduction et non pas le plaisir féminin, puisque au 19e siècle, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'avoir de plaisir, puisqu'on ne faisait que de la reproduction, donc on ne s'en intéresse pas. Et puis, à aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'on puisse être... on peut avoir des problèmes médicaux par le clitoris. Donc, pourquoi s'en intéresser? Parce qu'il n'y a pas de symptômes.
Oui, enfin, c'est ça, en fait. Enfin, les seuls symptômes, c'est plutôt un aspect très positif. Donc, du coup, bon, on sait bien, la puissance de la femme, ça veut dire ne plus la contrôler. Donc, en fait, c'est plus si intéressant. Et je me demande, Carole, comment est-ce qu'on fait quand on a invisibilisé autant quelque chose d'essentiel, enfin qui fait partie de soi? Comment on fait, comment toi tu fais dans ton cabinet pour justement aider, permettre que les personnes connaissent leur sexualité, apprennent leur sexualité? Est-ce que tu as des patientes qui viennent te voir justement avec ce sujet-là? Comment toi tu abordes ce sujet et de la méconnaissance et aussi de la femme fontaine?
Alors, on fait un petit cours d'éducation sexuelle.
Ouais, la base,
un petit cours, ce que les gens n'ont pas reçu. Une fois que le cours est fait et que la femme, après quand même quelques exercices, de regarder son corps, d'être bien dans son corps et de voir exactement comment ça se passe. Ce qui veut dire que dans le cours d'éducation sexuelle, il y a un cours sur la masturbation. Et c'est vrai que la femme fontaine, c'est des choses qui arrivent... très rarement, parce que soit la personne vient dire voilà ce qui s'est passé, j'ai honte parce que faut changer les draps, parce que je sais pas ce qui m'arrive, et puis j'ai senti un plaisir différemment. Donc là c'est pareil, on explique, mais comme je vous disais au début, comme on sait pas ce que c'est, personne n'est d'accord, on explique en tant que femme, moi j'explique en tant que femme sur mon expérience, sur et comment aller rechercher les émotions, le ressenti quand ça se passe, et de se dire ça arrive, voilà, on en parle avec son partenaire, et puis oui, on changera les draps.
Ça va, c'est pas si grave. Et ce qui est intéressant, soit dit, c'est que du coup dans tes recherches, tu parles même, pour parler du mythe et de la femme fontaine, de puissance évocatrice. Est-ce que tu peux, enfin c'est assez puissant, hein, comme mot, on va pas se mentir. Comment tu pourrais l'expliquer pour nos auditeurs et nos auditrices, cette puissance évocatrice?
Bah en fait, l'éjaculation, déjà, elle est associée à l'homme. Quand on parle d'éjaculation féminine, on est obligé de préciser que c'est féminin. Donc de base, on l'associe à l'homme. Et il y a une forme de dominance, de pouvoir quand l'homme éjacule. Et donc, le fait qu'un homme puisse faire éjaculer une femme, il y a une forme d'assurance un peu narcissique de sa part. Et donc, en même temps, une femme qui puisse se faire éjaculer elle-même ou une femme qui puisse éjaculer, franchement, souvent, et ben en fait, je pense que ça peut faire peur. Et c'est comme une forme de... C'est, pour moi, c'est une marque de puissance, en fait. Enfin, ça ne l'est pas, mais c'est perçu en tant que
c'est
tel.
C'est perçu, oui.
Voilà. C'est perçu, l'éjaculation est perçue comme une forme de puissance qui est normalement attribuée aux hommes. Et donc, de là, on fait de la femme un homme. Quand elle éjacule, en fait. Et donc, c'est pour moi, en ce sens, que j'associe l'éjaculation féminine à une puissance évocatrice, plus dans la perception qu'on en a que ce qu'elle est vraiment.
Ouais, c'est ça, de déconstruire, justement, tout ce mythe autour de l'éjaculation, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, les hommes apprécient de pouvoir partager ce plaisir-là avec leur partenaire. C'est plutôt les femmes qui n'assument pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait une puissance particulière parce que ce n'est pas du tout la même fonction que l'expulsion. Parce que pour les hommes, on devrait plutôt parler d'expulsion qui amène l'éjaculation. C'est un peu ce système. Que dans la femme, il y a... Parce que chez les hommes, c'est les spermatozoïdes qu'on expulse. D'accord ? Dans le mythe de la femme fontaine, il y a rien qui sort à part ce liquide. Donc, c'est plutôt comment nous, les femmes, on va arriver à le vivre tel que c'est, que ça fait partie de nos différentes facettes de notre sexualité. Que le pouvoir, l'homme, ils n'ont pas de pouvoir là-dessus parce qu'ils ne savent pas comment c'est déclenché. Et il faut que la femme soit complètement dans le lâcher-prise pour qu'elle puisse déclencher ce système d'éjaculation. Et elle, effectivement, elle peut le contrôler, mais comme l'homme va contrôler son expulsion. Mais ça part de base que la femme doit être complètement dans le lâcher-prise pour que ça puisse se passer.
Donc celle qui nous écoute justement sur cette... Parce que c'est vrai, quand on dit femme fontaine, peut-être que... Enfin, moi, je ne me suis pas spécialement posé la question, j'ai déjà eu l'impression... mais vu que j'ai entendu aucun récit similaire d'amis, de copines qui me disent moi aussi j'en ai jamais réellement parlé. Mais c'est vrai que savoir aussi que et c'est vrai qu'on est dans un contrôle aussi permanent de notre sexualité parce que c'est notre intimité, parce que c'est ce qu'on choisit d'y mettre dedans. Savoir peut-être que le lâcher prise peut être un moyen d'y accéder si on souhaite d'y accéder. C'est hyper clair aussi de le savoir, Swazik.
Et puis il y a aussi, alors je ne suis pas médecin, je m'appuie juste sur les recherches que j'ai faites, deux formes d'éjaculat que j'ai notées, l'externe et l'interne, que Hippocrate, déjà à l'Antiquité, parlait de ça, ce qui est assez surprenant aussi.
Okay.
Et donc il y a certaines femmes, l'éjaculat se fait en interne et donc après se mélange au fluide et donc on ne le voit pas. Et chez d'autres femmes, il est externe et donc là, ça passe par... l'expulsion du liquide. Mais donc, en fait, moi, ma théorie, c'est qu'on est un peu toute femme fontaine. peut-être qu'on reviendra à discuter là-dessus. Mais qu'en fait, il y a tellement de possibilités d'éjaculation qu'il n'y a pas une seule éjaculation féminine, mais en fait, il y en a plusieurs. Et donc, c'est en ça aussi que parler de la femme fontaine, c'est encore plus la cloisonner dans ce qu'elle est, dans sa sexualité.
Oui, c'est l'enfermer dans une représentation, parce que c'est vrai que... je pense que quand on dit femme fontaine, moi je me demande toujours à quel moment on a commencé à dire ça. Enfin, il y a bien sûr le mythe que tu expliques, enfin, qui a pris plusieurs formes. Mais je me dis, sachant que c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, comment est-ce qu'on en est venu à associer ça directement à une fontaine? Enfin, ça fait pas mal réfléchir sur qu'est-ce qu'on met comme case là-dessus. Et puis je trouve dans le côté fontaine, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose d'incontrôlable, on retrouve quelque chose aussi de la vie, parce que l'eau, c'est la vie. Enfin, y a plein de choses jolies dans le mythe, et puis en même temps, il y a plein de choses qui vont forcément cloisonner, parce que ça, c'est une femme fontaine, mais sauf que c'est vrai que chacun a aussi sa définition de ce qu'on est, de ce qu'on ressent et de ce que notre corps va manifester. Carole, tu veux réagir là-dessus?
Enfin, moi, je pense que ça a été un peu découvert. Alors, j'ai pas fait autant de recherches que Swazik, mais par la pornographie, parce que il y a beaucoup de, en pornographie, il y a quand même beaucoup de scènes. Il y a même, je crois, des films qui proposent que ça, femme fontaine. Donc, ça a été amené comme ça, avec tout ce mystère. C'est quoi? D'où ça vient? On n'a toujours pas de la réponse.
Non, mais c'est fou. Enfin,
et de vouloir le découvrir. Parce que bah, c'est maintenant que je vais le dire, effectivement, on devient femme fontaine. Même si notre corps est comme ça, mais c'est un peu quelque chose qu'on va muscler, qu'on va lâcher prise, comme on va faire des abdos. Mais là, c'est une manière d'être dans sa sexualité, de se dire, bah, ça, c'est encore une possibilité que j'ai.
Nous, en si tant j'ai pas, envie de l'explorer.
Si j'ai envie, c'est une possibilité que j'ai. Et effectivement, il y a des moments... Et c'est là qu'on parle plus de femme fontaine, parce que femme fontaine, c'est vraiment associé à l'expulsion externe. Mais il y a des moments où la lubrification, on sent que la lubrification est beaucoup plus forte. Et ben c'est ça qui se passe aussi.
Oui, exactement. Parce que moi, en fait, j'avais envie de revenir sur ce sujet. C'est vrai que quand il y a de la masturbation et de la masturbation partagée en couple ou ce qu'on veut, et que notre appareil génital est stimulé... Enfin, à titre personnel, moi, ça m'est déjà arrivé de que ce soit vraiment très fort, non pas qu'il y ait un jet, mais d'avoir l'impression que limite c'était moi qui avait une éjaculation, sans que ce soit un jet, sans que ce soit. Enfin, et c'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis bon bah est-ce que c'est moi le problème, est-ce que juste j'en ai extrêmement envie, donc c'est en train de se barrer n'importe comment. Et c'est vrai qu'enfin, il y a toutes ces, je pense, ces questions-là qui dont on parle pas et qui seraient intéressantes justement d'aborder pour que les personnes connaissent mieux leur corps. Et toi justement, Carole, avec dans ton cabinet, quand je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais qu'une femme ou une autre personne vienne te voir en te disant bah voilà, j'ai envie de comprendre jusqu'où je pourrais aller dans ma sexualité. Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là ?
Ce qui arrive toujours, en fait, quand quelqu'un, en disant oh, « c'est grâce à ce mec-là, c'est grâce à mon partenaire que j'ai découvert être femme fontaine », alors non, c'est grâce à vous ou à votre complicité, mais vous n'êtes pas dépendante de l'autre pour arriver à ça.
Ouais.
Si ça vous a procuré un orgasme ou pas, ou ça vous a donné d'autres sensations, mais c'est grâce à vous. Donc comment vous allez découvrir ça ? Parce que toute seule, on peut arriver à ça. Vous allez utiliser quoi ? Vos doigts, des sextoys ? Comment vous allez changer votre masturbation ? C'est là qu'arrive toute la théorie sur la masturbation. Parce que seule, on peut découvrir ça. Mais en général, c'est toujours arrivé à deux. Cette excitation qui a fait monter pour qu'il y ait une éjaculation, c'est toujours en général arrivé à deux. J'ai jamais vu, mais ça existe peut-être, quelqu'un qui me dit hier soir, je me suis masturbée, je suis de fontaine, parce que je suis venue vous voir pour voir ce qui se passait. En général, c'est toujours associé à l'autre, à son partenaire ou à sa partenaire.
Et moi, j'aimerais juste revenir, parce que vu que dans cette émission, on adore justement aller défoncer les clichés pour qu'ensuite, on puisse être mieux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, Soazic, dans tes recherches ? Là, on parlait, c'était déjà ahurissant, cette histoire de l'église qui incitait à être femme fontaine, c'est quand même incroyable. Dans le mauvais sens du terme, mais incroyable. Et qu'est-ce qui a pu te marquer, toi, dans tes recherches ? Quelque chose où tu te dis « waouh ». Là, j'ai mis le doigt sur un truc, j'en reviens pas. Enfin, c'est assez incroyable.
J'ai l'anecdote parfaite.
Ah bah parfait.
En fait, je me suis aussi intéressée au mouvement féministe, notamment américain, qui serait emparé du sujet de la sexualité des femmes pour combler les lacunes de la science face à ces thématiques-là. Et j'ai découvert une américaine pro-sexe qui s'appelle Annie Sprinkle, qui a mené une expérience étonnante, qui était de faire découvrir son col de l'utérus aux gens. Et donc, elle était, pendant une exposition, assise sur une chaise, les jambes écartées, et elle permettait aux gens de venir voir l'intérieur de son vagin avec une lampe torche qui éclairait, pour pouvoir voir son col de l'utérus, qu'on puisse observer ce à quoi ça ressemblait. Et j'ai trouvé ça fantastique, parce que je me suis dit...
C'est impressionnant, hein.
C'est inhabituel.
Carrément.
Et je me suis dit, c'est vachement intéressant de faire ça. Elle était complètement décomplexée. Et puis, c'était vraiment... c'était un message politique, c'était un geste fort qui permettait de désacraliser la vulve, l'appareil génital féminin, comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et surtout à quoi ça ressemble, en fait. Parce que l'appareil génital masculin est extérieur, mais celui de la femme, ou du moins des personnes qui ont une vulve, est interne et donc on ne peut pas le voir.
Bien sûr.
Il y avait aussi Betty Donson, qui est une américaine féministe, qui, elle, faisait des ateliers pour les femmes pour se masturber. Mon rêve. Et c'est avec son assistante, elle a monté jusqu'à... Elle faisait ça à Madrid ou aux États-Unis. Elle faisait vraiment des ateliers en groupe pour apprendre aux femmes à se masturber. Et du coup, tout était possible, quoi. L'expulsion était possible, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas vraiment faire si on ne nous explique pas. Nous, les femmes, avec nos... voilà.
Disons qu'on connaît tellement mal notre appareil génital qu'on n'arrive pas à comprendre pour se donner du plaisir, quoi. C'est vrai que comment est-ce qu'on peut essayer quelque chose si on ne sait même pas à quoi il ressemble?
Oui.
C'est un peu compliqué.
Et il se passe plein de choses où on fait des ateliers pour découvrir, mais tout de suite, sur la sexualité, on devient tabou. Mais non, il faut arrêter ça, il faut faire ces ateliers-là, parce que du coup, une fois que moi, je connais bien mon corps, comment je vais pouvoir déjà et l'assumer que si ça se passe avec un ou une nouvelle partenaire, c'est-à-dire, potentiellement, moi, ça m'arrive, et comme j'ai un lâcher-prise, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Désolée, je changerai tes draps ou la housse de ton canapé. Et puis, quand on est dans cette connaissance, on peut donner les codes à l'autre. Voilà mon mode d'emploi.
Ouais.
Et l'autre, comme ça, sera invité à donner le mode d'emploi et du coup, notre sexualité sera d'autant plus épanouie.
Et on en revient toujours à la communication, comme d'habitude, qui a tellement été oubliée dans la sexualité qu'on se retrouve sur des choses très, très compliquées aujourd'hui. Soizic, là, on parlait d'une expérience assez dingue de cette femme qui a montré son appareil génital. Comment est-ce qu'on en est arrivé, du coup? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste tabou, le sujet de la femme fontaine, ce mythe-là. Qu'est-ce qui a pu se passer récemment et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, on en reparle à nouveau, après, je ne sais pas, ou que c'est remis sur la table ou que d'autres personnes participent, en tout cas, à faire changer ces représentations?
Je pense qu'il y a toute une vague de féministes qui sert ce propos autour de la sexualité de la femme. En fait, de ce que j'ai observé, c'est d'abord aux États-Unis dans les années 80 qu'il y a les féministes pro-sexe pendant le mouvement des porcs noirs qui vraiment revendiquent l'appropriation du corps de la femme par la sexualité. Et donc, c'est des femmes qui appartenaient au milieu de la pornographie, de la prostitution, de la sexologie, qui vont justement, grâce à un travail empirique, puisque la science ne permet pas d'apporter des connaissances et des représentations autour de l'appareil génital féminin, c'est elles, à travers leurs travaux empiriques, notamment Annie Sprinkle, dont je parlais récemment, qui permettent justement de stopper l'invisibilisation du clitoris, de la vulve. Et ensuite, ça a été repris par les féministes françaises dans les années 2000, notamment avec Virginie Despentes, qui parle de la prostitution dans King Kong Theory. Et donc, je trouve que voilà, il y a tout un pan de féministes françaises qui sont venues éclairer et qui ont permis qu'on se questionne sur ces sujets-là. Après, je trouve quand même qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de l'éjaculation féminine. Et je pense que c'est encore un sujet qui mérite d'être travaillé.
D'être étudié, oui. Ouais.
Et Soizic, moi, j'aimerais savoir ce que tu penses, parce que tu as étudié aussi sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et moi, comme tu sais, Laura, je suis un peu partagée sur les réseaux sociaux, sur la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent recréer d'autres tabous.
D'injonctions, oui.
D'injonctions sur la sexualité. Et bon, moi, je n'ai pas vu beaucoup de choses passer sur ce mythe-là, mais est-ce que toi, tu as vu des choses et qu'est-ce que tu en penses?
Très peu aussi. J'en ai vu très peu. Il y a de plus en plus de comptes qui permettent une libération de la sexualité, de la parole aussi. Libération de la parole, ça, c'est très important. Mais néanmoins, très peu. J'ai essayé de me documenter sur Instagram, notamment, et j'ai été un peu déçue. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Après, je reste quand même vigilante à ne pas, en voulant faire de la sexualité des femmes un sujet qui ne soit plus tabou, ne pas en faire des bêtes de sexe aussi. Qu'on ne cherche pas à ce que les femmes atteignent le niveau de représentation des hommes, que les femmes ne deviennent pas des femmes puissantes sexuellement parlant. Je pense qu'il est vigilant qu'on reste dans le contrôle de notre sexualité, qu'on n'en fasse pas une norme à adopter, en fait.
Tout à fait. Alors déjà, on en est loin.
Oui. Hein, mais justement.
Mais faut pas, effectivement, je suis d'accord avec toi, parce que sinon, plus, ça ne va plus être possible. Quoi. Soyons dans notre juste sexualité et dans notre plaisir, et pas aller chez un Graal de on ne sait pas quoi, quoi, parce que ça va être terrible.
En fait, c'est toujours, on en revient au fait de s'écouter et pas d'écouter. Parce que on va avoir, et c'est très bien que des choses soient dites et que des choses soient écoutées, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qu'on dit souvent d'ailleurs dans nos épisodes, de bah, si t'as pas de sextoy à 23 ans, t'as raté ta sexualité. Si t'as pas fait de bondage à 21 ans, bah, t'es quand même pas drôle dans ta sexualité. C'est bien que ces choses-là soient dites, et nous, on le fait à travers ces podcasts, on a fait des épisodes sur le BDSM, etc. Mais c'est toujours important de rappeler que c'est pas pour tout le monde, enfin, ou en tout cas, ça pourrait, mais enfin, c'est ce qu'on veut d'abord nous, et puis aussi ce qu'on a envie de partager avec l'autre. Et écoutez, si l'autre n'a pas envie de partager ça, que ce soit homme, femme, personne non-binaire, parfois on peut avoir aussi une envie dans sa sexualité qui peut aussi rester un fantasme parce qu'on ne peut pas forcément l'assouvir avec quelqu'un ou parce qu'elle n'a pas vocation à être assouvie. Parfois, ça peut juste être un petit déclic dans sa tête de « tiens !» Et puis ça restera un déclic et que ça ne bougera pas plus. Et c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est écouter, quoi, surtout.
Puis on peut avoir une sexualité épanouie sans avoir connu, je vais te dire plus précisément, ce jet extérieur. Parce que le reste, je pense qu'à un moment donné, on le ressent tous, que c'est un peu plus lubrifié. Mais on se dit juste, ah ben là, on est beaucoup plus excité.
Voilà, ouais, exactement.
C'est ça ce qu'on dit. Mais le jet, on peut avoir une sexualité épanouie, on ne l'a pas. Et alors ? Ouais. C'était pas quelque chose qui était connaissant pour nous ou qu'on avait envie de le découvrir, quoi.
Et on en revient toujours, ouais, au même sujet.
Et on s'écoute.
On s'écoute. Mm. Pour terminer, Swazik, moi j'avais envie de te poser une question parce que t'as vraiment travaillé sur au-delà du mythe, sur la construction de la sexualité. Quelle est ton approche, justement, on en a un petit peu parlé là, de comment... alors c'est un grand mot, hein, se déconstruire, c'est compliqué, et puis c'est toute une vie aussi, mais quelle est toi ton approche sur la sexualité et qu'est-ce que à travers peut-être ta recherche, t'as voulu transmettre là-dessus ?
En fait, je dirais que j'ai toujours été vigilante à ne pas être... conditionnée par les tabous, même si je l'ai forcément été, hein, c'est sûr. Mais j'ai toujours été vigilante à déconstruire un petit peu les tabous autour de la sexualité. Et je me suis jamais mise de pression, en fait, sexuellement parlant. Mais voilà, l'objectif, c'est aussi pour moi de pouvoir échanger avec des personnes qui sont peut-être moins informées ou qui continuent de cultiver le tabou de la sexualité, notamment chez les femmes, les personnes à vulve. Et donc, c'est important d'en parler librement. En fait, je trouve qu'on se met tellement de pression sur les épaules par rapport à ça. Ça fait du bien parfois d'avoir des conversations décomplexées et de dire les choses franchement, tout en, encore une fois, ne faisant pas l'éloge du sexe pour autant.
Eh ben, c'était un très joli mot. Vraiment, Swazik, merci pour nos auditeurs, nos auditrices. On était vraiment ravis. C'est fou, la vie, on s'est retrouvés ouais, à cette émission et tu m'as dit que tu avais fait ce mémoire. Je me suis dit, mais avec Carole, il y a un an, on en parlait de ce sujet et on n'avait pas réfléchi forcément à qui inviter. Donc, merci beaucoup d'être venu nous partager tes recherches précieuses, tes informations. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent auront pu avoir un peu... quelques billes sur ce qu'elles ressentent ou sur ce qu'ils ont envie de ressentir. Donc vraiment, merci Swazik et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Ground Control en partenariat avec le magazine Cosette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.